Vous êtes sur RTL.
18h. RTL Soir, Thomas Soto. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. Vous avez la flemme d'aller voter dimanche, mais vous voulez voter quand même. Faites une procuration, il n'est pas trop tard et en plus c'est extrêmement simple. Demain matin, vous allez au commissariat de police ou à la gendarmerie près de chez vous. Vous remplissez un formulaire tout simple, vous désignez la personne qui votera pour vous. Elle doit habiter dans la même commune mais pas forcément être inscrite dans le même bureau de vote. Et c'est fait. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour la démocratie. Alors oui, je sais, dit comme ça, ça fait un peu ronflant, mais c'est quand on est privé de liberté qu'on s'aperçoit qu'elle nous manque. Alors ne laissez pas les autres décider pour vous voter.
À voter.
À voter.
Et moi je vote Amandine Bégaud. Bonsoir Amandine.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
On découvre avec vous les grands titres dans l'actualité de ce jeudi 17 juin.
Et à la une ce soir de la prison ferme requise contre Nicolas Sarkozy au procès Big Malion. 6 mois de prison ferme, nous irons sur place dans un instant. Dans ce journal également, ces Français qui ont du mal à retirer le masque. Et oui, et ils sont nombreux. Emmanuel Macron en Picardie. Et puis la réouverture de Disneyland Paris. Bonne nouvelle, les visiteurs sont au rendez-vous. Même la clientèle étrangère.
Les rendez-vous, les invités d'RTL soir, 18h15, Julien Bayou, patron des Verts et tête de liste Europe Écologie Les Verts en Ile-de-France. 18h35, l'homme aux plus de 5 millions de disques vendus et aux 13 millions de fans sur les réseaux sociaux, c'est Matt Pokora. La météo, bonsoir Peggy.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Alors attention, il y a ce soir 31 départements en vigilance orange.
Exactement, 30 pour orage, plus pluie et inondation pour 4 d'entre eux, entre les Pyrénées, le centre et le nord. Le Rhône toujours pour canicule. Demain, ce sera agité sur le nord-ouest avec des pluies soutenues, surtout le matin entre la Vendée et la Normandie. Des orages toute la journée entre les Hauts-de-France et l'Île-de-France. Ailleurs, un temps maussade à l'ouest le matin, ça ira mieux en journée. Un temps plus agréable, juste une inverse orageuse possible en montagne. Des températures très contrastées encore, de 15 à Cherbourg à 34 à Grenoble.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Et pour commencer, direction donc le palais de justice de Paris, réquisition cet après-midi au procès Big Malion. Et le parquet a réclamé de la prison pour Nicolas Sarkozy, 1 an dont 6 mois ferme, Cindy Hubert.
Il n'y a aucune indulgence pour l'ancien président. Au contraire, pour le procureur, Nicolas Sarkozy s'est éloigné du chemin de l'état de droit. Alors certes, le candidat ne peut pas suivre les finances au jour le jour. On ne lui demande pas de vérifier les factures. Mais c'est bien lui qui est tenu responsable du respect du plafond de sa campagne. Or, Nicolas Sarkozy a reçu 2 notes d'alerte. Il savait que les dépenses explosaient. Chacun a vu la catastrophe arriver. Mais le candidat n'a rien fait pour l'éviter. Il réclame même de passer à 1 meeting par jour. Alors vogue la galère. Le procureur aime les métaphores. Une campagne, c'est comme un sport de haut niveau. La victoire se joue à quelques millimètres. Le dopage fausse tout. Et c'est exactement la même chose ici avec cette fraude. Le procureur soupire. On ne saura jamais qui a eu cette idée. Tous les prévenus se défaussent. Je n'ai rien vu, rien su. Alors moi, je suis magistrat, pas romancier. Mais ce qui est sûr, c'est que tous ici ont participé à ce système de fausses factures. Et la première victime de ce procès, c'est le citoyen.
Cindy Hubert, en direct du Palais de justice de Paris, place demain et jusqu'à mardi aux plaidoiries de la Défense. La décision devrait ensuite être mise en délibéré.
Dans le Tarn, garde à vue prolongée pour Cédric Jubilard et 2 de ses proches.
Sa mère et son beau-père, c'est ce qu'a indiqué tout à l'heure le procureur de la République. Tous 3 sont interrogés depuis hier sur la disparition de Delphine il y a 6 mois. Un certain nombre d'incohérences, notamment relevées dans le récit qu'a fait le mari de la jeune femme qui est donc en garde à vue.
Vous écoutez RTL, il est 18h03 dans l'actualité également ce soir. C'est le jour 1 de la vie sans masque dehors.
Oui, depuis ce matin, on peut officiellement sortir sans que ça fait du bien. Et pourtant, ils étaient nombreux encore aujourd'hui dans les rues, ces masques. Manque d'informations ou vrai choix assumé. Dimitri Ramelot a posé la question tout à l'heure dans les rues de Metz.
Place de la République, en plein centre-ville, Sandrine sort du travail. Retour à la maison, masque chirurgical ajusté sur le visage.
Premièrement, je suis une personne à risque. Donc par sécurité, je préfère le porter. Et deuxièmement, le nombre de vaccinés, certes, augmente, mais tout le monde n'a pas reçu la 2e dose.
Et autour d'elle, comme pour finir de la convaincre de son choix, beaucoup de passants sans masque. Pas le cas de Loïc, qui traverse juste l'esplanade quelques minutes seulement.
Déjà par habitude, je suis pas encore prêt à l'enlever, en fait, finalement, psychologiquement. Aussi parce que j'en ai une cargaison à la maison. Et je pense qu'une fois que je les aurai épuisés, et si j'estime que je suis en sécurité d'ici quelques semaines réellement, je pense que oui, je n'en rachèterai plus. plus.
Et Patrice, lui, n'a découvert la levée de la mesure que ce matin en écoutant la radio, et un retour à la vie sans masque va lui demander un effort.
Je vais pas faire de la résistance tout seul et porter mon masque, voilà. Mais là, en ce moment, c'est l'euro, et quand je vois effectivement des images de fans qui, sur certains stades, eh bien, se congratulent sans aucune mesure de protection, y compris en l'occurrence les masques, bah, ça me plaît pas beaucoup cette image.
Et les médecins masqués rencontrés avouaient éviter le plus possible les zones très fréquentées.
À Metz, le reportage de Dimitri Ramelot pour RTL, un masque qui reste obligatoire à Disneyland Paris, dedans comme dehors. Le parc a toutefois fait un pas de plus vers un retour à la vie normale.
Réouverture,
oui. Réouverture aujourd'hui après plus de 7 mois de fermeture. Et il y avait du monde, Arnaud Touche.
Je suis ravie de déclarer Disneyland Paris à nouveau ouvert.
Sur Main Street, l'avenue principale, les visiteurs se pressent comme Océane.
Vous voulez être les premiers vraiment à être sur le parc. Ouais.
Elle est venue de Mâcon avec son compagnon Michael.
C'est vraiment une pause dans notre vie, ça fait tellement du bien. Enfin, clairement, on revit.
Écoutez, la musique, il y a tout ce qu'il faut, des larmes, de la joie, des applaudissements, c'est magnifique.
En robe de princesse, Eva a eu droit à...
une surprise
de la part de sa maman, et elle est visiblement ravie.
J'ai vu Michael, Tic et Tac, et plein d'autres choses.
Dans les attractions, il n'y a pas beaucoup d'attentes, comme le détail Ludivine, qui s'occupe du manège avec les tasses.
Ce matin, c'était majoritairement des Français. J'ai vu quelques étrangers, mais je pense que ça va pas tarder à arriver.
Et la directrice générale de Disneyland Paris, Natacha Rafalski, reste optimiste, notamment sur la venue des touristes européens.
Ce que nous avons vu déjà dans nos réservations, c'est un très fort engouement. Donc je suis très positive. Ça a commencé très très bien. On est très heureux du rythme de réservation. Très confiante sur le futur.
Et pour attirer ses visiteurs, le parc a profité de sa fermeture pour terminer la rénovation d'un hôtel et de plusieurs attractions.
Arnaud Touche à Disneyland Paris pour RTL.
Emmanuel Macron, lui, il était aujourd'hui en Picardie. C'est son Tour de France. Avant le Tour de France cycliste, il y a le Tour de France Macron.
Troisième étape donc aujourd'hui. Le chef de l'État s'est rendu dans l'école où sa grand-mère a enseigné avant une rencontre avec Fabrice Lucchini à Château-Thierry. À chaque fois, Vincent Derosier, il a pris le temps d'échanger, multipliant les bains de foule.
Oui, des bains de foule, un mot sur le pouvoir d'achat, un autre sur la crise sanitaire. Sur le papier, la journée d'Emmanuel Macron ressemble comme deux gouttes d'eau à une journée de campagne, à tel point que le président a dû se justifier au micro RTL de Frank Hanson. Non, il n'est pas là pour l'élection présidentielle et encore moins pour le scrutin de dimanche.
Comme ça ne vous a pas échappé, j'ai un mandat qui dure jusqu'en mai 2022. Parce que la situation du pays requiert d'être pleinement mobilisé. On ne peut pas être dans l'abstention du travail. Ensuite, les régionales, elles sont partout en France. Et comme ça ne vous échappe pas, je ne touche rien des sujets qui sont régionaux.
Et pourtant, même les enfants rencontrés dans une école ce matin ont remarqué que le président se balade beaucoup en France en ce moment.
On va progressivement s'en sortir. Dis-moi.
Ça va, la claque
Ah bah oui, ça va, c'est pas grave. Hein.
Emmanuel Macron lui aimerait éviter une autre gifle politique, celle-là, dimanche, pour le premier tour des élections régionales.
Il avait bien suivi l'actu, ce petit garçon. Ça va, la claque que tu t'es pris. Vincent Derosier.
Peut-être que ses parents l'avaient bien briefé.
Oui,
ça peut aussi, arriver aussi.
Dans l'Aisne, pour RTL.
Petite pause dans un instant. C'est l'heure de la correction des copies pour le bac philo.
RTL Soir. RTL Soir, Thomas Soto.
18h09, suite du journal avec vous, Amandine Bégaud. C'était donc la philo aujourd'hui pour les candidats au bac.
Oui, seule épreuve écrite, hein, en tout cas pour les élèves de terminale de cette édition 2021. Ils avaient 4 sujets au choix, au lieu de 3 habituellement. 2 textes et puis 2 sujets de dissertation. Écoutez bien, discuter, est-ce renoncer à la violence ou encore sommes-nous responsables de l'avenir ? À la sortie, les avis sont, et ça ne change pas, partagés.
Moi j'ai écrit 3 pages, fallait attendre une heure, je suis sorti à 9h13. Ouais. J'ai 14 de moyenne annuelle en philo, donc dans tous les cas j'aurai une bonne note à la fin.
J'ai choisi l'explication texte, bah ça me parlait plus que la disserte. C'était sur la morale et aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de gens qui agissent moralement. Donc j'avais pas mal d'exemples. Bah j'ai dit ce que j'avais à dire après. Bon.
C'est plus compliqué que je pensais et j'ai pas vraiment écrit beaucoup. Je me suis beaucoup basée sur le texte. Je crois que j'ai fait beaucoup de paraphrases, mais j'ai fait à peu près la même chose pour le bac blanc. Et j'ai eu 12, donc on croise les doigts.
J'ai pris « Sommes-nous responsables de l'avenir ?». Je crois que tout le monde a pris ce sujet parce que c'était un peu plus simple. J'ai parlé du bonheur, de la technique, de la religion. C'était un sujet assez large.
Voilà, réaction recueillie pour RTL par Marie Guerrier. Alors vous venez d'entendre le sujet qui a eu le plus de succès, visiblement, c'est celui sur l'avenir. Sommes-nous responsables de l'avenir? Vous auriez dit quoi, Thomas?
Moi, je suis un homme du passé.
Bon, allez, petite séance de correction, c'est avec Jean-Jacques Sarfati, professeur justement de philo, ça tombe bien.
Le sujet peut s'entendre de 3 manières. Sommes-nous responsables de notre avenir? Pouvons-nous le construire ou bien sommes-nous déterminés? Par rapport à la liberté, par rapport à la nature également, par rapport à la planète, est-ce que nous sommes responsables de cette nature, comme nous l'a enseigné Hans Jonas, est-ce que nous ne devons pas la préserver? Enfin, troisième point, par rapport à la justice, est-ce que nous sommes garants pour les générations à venir? Le piège dans lequel il ne fallait pas tomber, c'était celui de l'étroitesse, c'est-à-dire le fait de ne traiter le sujet que d'une seule manière. La philosophie, en effet, c'est l'ouverture à soi et à l'autre.
Bon, vous auriez eu un peu bon et un peu.
Moi, je pense qu'on est responsable de son destin dans la mesure où on fait des choix. Non, vous voulez que je développe un petit peu
non,
ou pas?
Non, ça va aller.
Bon, vous voyez.
Merci à Juliette G pour cette correction.
Faut choisir
les élèves.
Il faut conduire votre vie. Oui,
oui, ah ben ça, c'est important. Oui. Ouais. C'est
après, choisir, il y a des choses qui nous échappent. Première partie, deuxième partie. Enfin,
Bon, les élèves de première passaient cet après-midi. On a pensé aussi à eux. L'épreuve écrite de français. Le sport,
et oui, avec une mauvaise nouvelle pour Nadal.
Oui, il renonce à Wimbledon et au JO de Tokyo moins d'une semaine après avoir été détrôné à Roland-Garros. L'Espagnol explique, je le cite, vouloir écouter son corps. Et puis à l'Euro de football, l'Ukraine reste dans le match pour les huitièmes de finale après sa victoire 2-1 cet après-midi face à la Macédoine du Nord. En ce moment même, c'est Danemark-Belgique, une rencontre forcément particulière, hein, Baptiste Durieux, après le malaise de Christian Eriksen.
Absolument, il y a quelques secondes d'ailleurs, l'arbitre a sifflé et le temps s'est arrêté à Copenhague. 10e minute de jeu précisément, 10 comme le numéro de Christian Eriksen avec son pays, le Danemark. Les 22 acteurs sur la pelouse qui s'arrêtent de jouer, qui applaudissent à l'unisson avec les milliers de spectateurs danois et belges présents dans ce Parken Stadium de Tottenham. Beaucoup de banderoles, beaucoup de maillots avec le numéro 10 floqué, brandi dans ces tribunes. On peut lire sur les visages une certaine émotion, notamment celui de Simon Kerr, capitaine qui a joué un rôle déterminant pour sauver la vie de son coéquipier compatriote. Également le visage de Romelu Lukaku, qui est l'attaquant belge, qui partage le même vestiaire que Christian Eriksen à l'Inter Milan. Un moment d'émotion, vraiment de frisson, un hommage absolument vibrant quelques jours après le malaise cardiaque de Christian Eriksen sur cette même pelouse. C'était samedi dernier face à la Finlande. Le match avait été interrompu. Le Danois, qui est toujours à l'hôpital, qui se fera implanter un défibrillateur, un pacemaker nécessaire après une crise cardiaque due à des troubles de rythme. Pour l'instant, c'est d'ailleurs le Danemark qui mène 1-0. C'est presque anecdotique, mais le match vient de reprendre.
Merci beaucoup, Baptiste. Baptiste Durieux, ce soir, à noter la rencontre entre les Pays-Bas et l'Autriche. Tout ça, ce sera bien sûr à suivre sur RTL. RTL Foot, c'est dès 20h45.
La bonne nouvelle.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Et figurez-vous que les professionnels de la montagne ont le sourire après un hiver blanc, nul, hein, les stations étant fermées. Eh bien, l'été s'annonce bien meilleur. Les réservations enregistrent même déjà des hausses records.
En taux de remplissage actuellement, sur le mois d'août, on est quasiment déjà à 70%. Et juillet, on est déjà à 50%. La montagne a plein d'arguments. Il y a un attrait qu'on avait déjà vu l'année dernière. Je pense que les gens, suite au confinement, recherchent les grands espaces, un peu être plus loin des foules par rapport au littoral, le grand air. Et puis, on a toujours quand même plein d'activités. Les gens sont en altitude, sont au frais. Donc, pour les canicules et les fortes chaleurs, c'est toujours agréable.
Et Angélique Ivroux, la directrice de la centrale de réservation d'Arèche-Beaufort, elle était au micro RTL de Serge Puyot.
Merci beaucoup à vous, Amandine. Dans un instant, c'est à tout à l'heure, c'est avec plaisir.
Pardon.
C'est Julien. Vous voulez que je continue sur la philo ou pas?
Non.
C'est Julien Bayou, patron des Verts et tête de liste Europe Écologie et des Verts en Ile-de-France, l'homme qui propose un Green New Deal à la région, qui est l'invité d'RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto. RTL Soir, Thomas Soto.
Il est le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Il est surtout en ce moment la tête de liste de son parti aux élections régionales en Ile-de-France. Julien Bayou est l'invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous.
Bonsoir,
Julien Bayou.
Merci à vous.
Discuter, est-ce renoncer à la violence? C'est un des sujets du bac philo de ce matin. Ça vous inspire quoi, vous?
Oui, j'ai vu ça. J'ai trouvé que c'était très très bien. Surtout si on transpose dans le débat politique.
C'est ça.
Quand on en vient à la violence des mots, les anathèmes, ou pire évidemment la violence physique, oui, c'est la fin de la démocratie. Mmh. Donc c'était le bac général.
Bac général, ouais. Même entre alliés, c'est pas simple de discuter pour renoncer à la violence.
Non, mais c'est vraiment important. Enfin, on le dit souvent sans y penser, mais si on n'est pas capable d'avoir une discussion, d'appeler quelqu'un au téléphone pour lui dire ce qu'on pense, ou d'échanger et qu'on en vient à la violence, oui, c'est la fin de la démocratie. Mmh. C'est vrai.
On va évacuer tout de suite, si vous le voulez bien, la question du Front Républicain. Est-ce que vous appellerez, vous, en tant que responsable de parti, à faire barrage au Rassemblement National partout où il sera en position d'être élu, par exemple dans les Hauts-de-France? Est-ce que vous pourriez appeler à voter Xavier Bertrand dimanche soir?
Alors, il reste 24 heures de campagne.
Oui.
J'appelle évidemment tous les électeurs, les électrices à soutenir les écologistes partout. Vous me parliez d'Hauts-de-France, c'est Karim Adeli, la candidate qui apporte un espoir, une alternative. En PACA, c'est Jean-Laurent Félizia, évidemment. Dimanche soir, nous ferons tout ce qui est en nos moyens pour battre l'extrême droite. Je considère vraiment que c'est une ennemie de la démocratie. C'est-à-dire que,
une ennemie de la démocratie ?
Oui, oui. Notamment quand on voyait, vous parliez de violence. Aujourd'hui, la violence, la menace, c'est l'extrême droite. Les masculinistes qui s'en prennent, les tireurs isolés qui s'en prennent aux gendarmes, c'est l'extrême droite. Je crois vraiment qu'il faut faire un distinguo entre des compétiteurs, des compétitrices, des adversaires, des concurrents, des concurrentes, et puis les ennemis de la République.
Elle n'est pas dans le champ de la République, Marine Le Pen.
Pour moi, elle peut se ripolliner, elle peut être diabolisée. J'en veux d'ailleurs à ce gouvernement qui finalement valide ses thèses, qui est un ministre de l'Intérieur et qui a considéré qu'elle était trop molle. Je cite parce que
c'était Gérald Darmanin lors du débat entre Marine Le Pen et Gérald Darmanin.
Je cite parce qu'elle n'aurait pas un problème avec l'islam. Le ministre des cultes qui en vient à donner comme ça des brevets de républicanisme à l'extrême droite qui pourtant a voulu tirer sur De Gaulle et qui a été fondé par les Waffen-SS. Hein, je confonds pas.
Après, il y a des adversaires. Vous faites une lignée directe entre les Waffen-SS et Marine Le Pen.
Je vais très très vite parce qu'on a peu de temps, mais vraiment cette extrême droite, c'est celle qui méprise la justice, c'est celle qui méprise l'équilibre des pouvoirs, c'est celle qui
mais pour vous, elle ne devrait pas avoir le droit d'être candidate aujourd'hui.
Non, en tout cas, elle est dans la course électorale, mais je ne la considère pas comme une adversaire comme les autres. Pour moi, c'est une ennemie de la République.
Quel est votre objectif à vous pour ces régionales? Vous espérez en gagner combien de régions, lesquelles?
Mais vous comprenez bien que si je vous dis Bretagne, je me fais évidemment en tant que secrétaire national houspillé par la Nouvelle-Aquitaine. Non, nous l'enjeu, c'est traduire en acte les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Il y a eu une vraie innovation démocratique avec cette convention qui a produit un ensemble cohérent de mesures pour la transition écologique dans la justice sociale. C'est ça l'enjeu, hein, créer des emplois, améliorer la santé, améliorer le bien-être.
C'est pas du tout ma question. Hein.
Oui.
Combien de régions vous
Et donc,
vous
il, nous faut des régions, il nous faut des régions écologistes pour mettre en œuvre cette proposition.
Lesquelles sont gagnables?
Eh bien, sur le papier, ça dépend des électrices et des électeurs, donc toutes.
Toutes?
Mais je ne vais pas vous dire autre chose. On vote dans quelques heures, dans quelques dizaines d'heures. C'est vraiment le... Vous voyez, Yannick Jadot, en 2019, à cette échéance du vote, était donné à la moitié du score qu'il a finalement réalisé. Donc, quand on dit chaque voix compte, je le pense réellement. En particulier, s'il y a une abstention qui est un peu moins bonne encore qu'espérée, les procurations, les votes, le vote vert fait la différence.
La fin du masque en extérieur depuis aujourd'hui, la vie qui va reprendre sans couvre-feu à partir de dimanche, Julien Bayou, c'est une bonne nouvelle, tout simplement? Vous faites partie de ceux qui, comme Jordan Bardella, ici même dans ce studio ce matin, disaient qu'il s'agit de mesures électoralistes?
Non, mais je crois qu'il ne faut pas gâcher son plaisir. C'est une bonne nouvelle, revoir les sourires des gens, évidemment. Moi, j'appelle par contre à la prudence. Hein. On sait qu'un déconfinement raté ou trop léger peut nous amener à un retour de bâton, particulier avec ces variants. Et j'étais surpris, moi. Je sors de chez moi et je vois tout le monde sans masque. C'est une libération, vraiment. C'est un plaisir.
On se sent presque un peu gêné dans la rue quand on l'a pas.
Oui, je me demandais si je l'avais pas fait, moi, ici. Voilà. Et quand je suis venu en métro sur la ligne 1, je constatais que vraiment, il y avait un respect du port du masque. Oui. Et je crois que c'est la bonne mesure. On doit pouvoir profiter de l'instant présent. Voilà, plus de couvre-feu, la fête de la musique. Aller voter, bien sûr, dimanche. Mais être très prudent sur le maintien des gestes barrières.
Vous êtes un peu, finalement, sur la ligne d'Olivier Véran, le ministre de la Santé. Il a évoqué ce matin, là encore, l'hypothèse de rendre la vaccination obligatoire pour les soignants des EHPAD, si la couverture vaccinale ne s'améliore pas d'ici la fin de l'été. Est-ce que vous y êtes favorable à ça, cette idée de vaccination obligatoire pour une partie du personnel médical?
Je suis gêné avec l'idée parce que finalement, ça peut être contre-productif. Voilà. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une dose. J'attends ma deuxième début juillet. Je souhaite que le plus de monde possible se fasse vacciner. C'est une des conditions pour soi et pour les autres, évidemment.
Vous encouragez tout le monde à se vacciner?
J'encourage tout le monde à le faire, évidemment.
Ouais. Y compris pour les 12-17 ans?
Oui, c'est à partir du moment où l'agence de la santé le préconise.
D'accord.
Mais il me semble que la question de le rendre obligatoire peut être contre-productif. En tout cas, c'est ce qu'on a pu voir dans certains pays. Et en France, l'adhésion vaccinale, enfin le terme un peu barbare, l'adhésion vaccinale a progressé finalement quand on a vu que les autres étaient vaccinés et pouvaient reprendre un semblant de vie normale. Donc je pense que c'est le meilleur ambassadeur.
Autre question de santé publique, Julien Bayou, le glyphosate. Il y a 4 agences de santé européennes, dont l'ANSES, qui ont rendu un rapport sur le glyphosate et les conclusions sont claires. Il est écrit que le produit ne présente pas de risque pour la santé. Alors je veux savoir, est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que vous avez confiance dans ce rapport? Et est-ce que vous dites que du coup, il faut aller vers une réautorisation en Europe du glyphosate?
Non, il y a un enjeu de long terme sur la transition écologique pour aller vers l'agroécologie.
Oui.
Se passer en général de tous les pesticides parce qu'il y a un impact sur la santé, il y a un impact sur la faune, il y a un impact sur les milieux aquatiques. Ça, c'est l'agroécologie. Puis il y a plus d'emplois et c'est la manière de rémunérer nos agriculteurs et ça produit une alimentation de meilleure qualité.
Et on sait qu'il faut du temps pour les agriculteurs, pour la conversion.
Non, il faut des pouvoirs publics qui les accompagnent parce que la demande est là. Et je le constate en Ile-de-France, la demande est là. Il y a des maraîchers qui ne demandent qu'à s'installer. Donc c'est le rôle des pouvoirs publics d'acheter les terres agricoles, de préserver par rapport à la bétonisation. On pense aux terres agricoles de Gonesse, de Grignon, de Saclay. Il y a un enjeu plus immédiat sur le glyphosate. Finalement, la meilleure des preuves, c'est que Bayer, ex-Monsanto, on a des documents, les Monsanto Leaks, qui ont prouvé qu'eux-mêmes attestaient de la dangerosité de leurs produits.
Donc ça veut dire que vous ne croyez pas à ce rapport des quatre agences de santé ?
Je crois plutôt, malheureusement, les documents de Monsanto.
Donc c'est quoi ? C'est un rapport sous pression ? C'est quand même troublant de vous entendre dire ça.
Il y a eu des inquiétudes entre l'EFSA et les différentes agences. Nous, on a plutôt des éléments sur lesquels on s'appuie qui indiquent une dangerosité, au moins pour les milieux aquatiques. Et donc, c'est un problème, un danger pour la biodiversité.
Donc, vous remettez en cause ce rapport de l'ANSES.
Là, c'est compliqué, j'ai pas pu le lire. Voilà.
Donc,
moi, je vous dis ma position.
En tout cas, vous
n'êtes
pas en confiance absolue, quoi. Si on vous dit qu'il y a un rapport de quatre agences, dont l'ANSES, qui dit il n'y a pas de danger pour la santé, vous dites.
Je m'en tiens à ma position. Je vous dis, c'est compliqué, parce que là, moi, je n'ai pas pu lire ce rapport. Donc, je m'en tiens là, et parce que c'est compliqué d'avoir des avis à l'emporte-pièce. Et puis, il y a un enjeu plus global, plus général, de moyen et long terme, de transition vers l'agroécologie sans pesticides.
Donc, dans tous les cas, il ne faut pas revenir au glyphosate. Il ne faut pas changer de direction.
Ce gouvernement a réintroduit les néonicotinoïdes, dont des pesticides qui sont avérés dangereux
pour les abeilles. Dans certains cas, pour les betteraves, sur une situation particulière.
Et pour éviter de les indemniser.
Ouais.
Il y avait une vraie arnaque. C'est-à-dire que pour éviter d'indemniser les betteraviers, en fait, on a réintroduit un néonicotinoïde. Non, au contraire, on doit indemniser les betteraviers parce qu'ils étaient dans la difficulté à l'instant T. Et on doit organiser la transition vers l'agroécologie. Meilleur pour la santé, meilleur pour le climat, meilleur pour l'emploi.
Julien Bayou, on a commencé avec un sujet du bac philo, on va terminer avec un autre. Sommes-nous responsables de l'avenir ?
Oui. Oui, absolument. Et on est en particulier responsable de l'avenir de nos enfants. Nous, les écologistes, on se bat pour les générations futures. Et c'est en cela que traduire les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, c'est prendre soin de l'avenir de nos enfants. Voilà, plus d'emplois, mieux pour la santé. On a vu les canicules, on a vu les épisodes de gel aussi qui ont fragilisé à nouveau l'agriculture. En engageant la transition écologique, on prend soin de son cadre de vie, de son bien-être. C'est moins de pollution sonore. On prend soin aussi de l'avenir de nos enfants.
Ça pourrait aussi s'adresser, cette question de philo, à tous les abstentionnistes. L'abstention qui sera sans doute le seul vrai vainqueur dimanche soir, malheureusement, à l'issue de ce premier tour des régionales et des départementales. Quel message, pour finir, vous adressez aux abstentionnistes, à ceux qui disent « moi je m'en fous, j'aurais pas voté, ça m'intéresse pas ».
Mais moi, j'ai été élu en 2015 avec déjà 50% d'abstention. Ça m'a jamais quitté du mandat. Ne pas considérer que les élus ont raison sur tout le temps, et je pense que c'est un des travers de notre 5e République. Et au contraire, on doit remettre du participatif. Je n'oppose pas les deux, démocratie représentative et participative. Et c'est pour ça qu'avec des budgets participatifs, des conventions citoyennes, c'est des belles innovations. L'enjeu, c'est de les respecter. Et je crois que c'est avec ces élus humbles et déterminés, qu'on pourra redonner confiance. Voilà, c'est ça l'enjeu.
Merci beaucoup à vous, Julien Bayou, d'être venu nous voir. Je vous rappelle que vous êtes je vous rappelle pas vous, parce que vous le savez, vous êtes tête de liste Europe Écologie Les Verts en Ile-de-France.
Et 6 autres partis politiques écologistes.
Absolument. Et il y a d'autres listes aussi.
Tout à fait.
Absolument. Merci beaucoup à vous. Dans un instant, ce sera l'œil de Philippe Cabrières. Bonsoir, Philippe.
Bonsoir.
Bonsoir, Philippe.
Ça va ?
Oui, et vous ?
Bah, pas mal.
De quoi vous nous parlez ce soir ?
Fin du port du masque et tout ça. Là.
Oui.
Jean Castex était à l'isolement. Et derrière, il nous annonce fin du masque et levée du couvre-feu.
Bah, oui.
Faut l'enfermer plus souvent, Jeannot, je pense. 7 jours. Il fait péter le couvre-feu et le port du masque. Si on l'enferme un mois, peut-être il nous fait péter les impôts.
Ah.
Moi, je trouve que Jean Castex fait un meilleur retour que Benzema.
J'aime cette façon de réussir à mêler la politique, le sanitaire et le football. Voilà, c'est un regard unique sur l'actualité. C'est Philippe Cabrières, juste après le rappel des titres à 18h30. Merci, à tout à l'heure.
Thomas Soto, RTL Soir.
18h30.
RTL Soir, Thomas Soto.
Et Amandine Bégaud pour le rappel.
Et à la une ce soir de la prison requise contre Nicolas Sarkozy au procès Bigmalion. 1 an de prison, dont 6 mois ferme. La procureure estime que l'ancien président a fait preuve, dit-elle, de désinvolture durant sa campagne de 2012. Emmanuel Macron, lui, est en Picardie. 3e étape de son tour de France, mais à 3 jours du premier tour des régionales, certains l'accusent de faire campagne. Faux, répond le président, qui explique être tout simplement au travail. Et puis l'Euro de foot, l'Ukraine reste dans le match pour les 8e de finale après sa victoire 2-1 France cet après-midi face à la Macédoine du Nord. En ce moment, le Danemark affronte la Belgique, rencontre qui a été interrompue à la 10e minute de jeu pour rendre hommage à Christian Eriksen, ce joueur victime d'un malaise samedi dernier. Les Danois mènent actuellement 1-0.
Eriksen qui va mieux quand même, oui. Rappelons-le. Peggy, oui. Bon, attention aux orages ce soir.
Et oui, 30 départements sont actuellement...
Parce que hier moi je dormais et en fait la fenêtre était ouverte au-dessus.
Oh, ah bah quelle
très
idée.
Mauvaise idée.
Oh
là là, mais
j'avais
dit que vous gagnez du temps pour le matin, ça fait la douche.
Non, c'est pas possible, c'est pas vrai Thomas.
Allez-y.
Mais ça recommence ce soir. 30 départements sont actuellement en vigilance orange orage, dont 4 pour pluie et inondation en plus. Donc entre les Pyrénées, le centre, ça remonte vers le nord. Et le Rhône est toujours en vigilance orange canicule. Alors demain, moins d'orages, mais ils seront nombreux encore, localement forts entre les Hauts-de-France et la région parisienne toute la journée. En allant vers la Bretagne, encore pas mal de pluie, surtout en matinée. Et puis dans la journée, mis à part sur le nord-ouest où ça restera agité, un temps plus calme et plus lumineux, juste un coup de tonnerre possible en montagne. Les températures, elles seront très contrastées encore, de 15 petits degrés seulement à Cherbourg, à 34 à Grenoble, 27 à Paris et Bordeaux.
Merci à vous Peggy. 8h32, il est là. Et il faut bien le reconnaître, ça nous fait plaisir. Philippe Cœur-Rivière.
On dirait, oui. Ça va ? Bonsoir. Bonsoir à tous.
Je suis toujours très content de vous voir.
Je ressens ça.
Philippe, Jean Castex a donc annoncé la fin du port du masque à l'extérieur, ça c'est depuis ce matin. Et puis la levée du couvre-feu pour dimanche.
Tiens, tout a changé ce matin, je n'y comprends rien.
Ah oui, c'est la fête, mais le gouvernement est très emmerdé parce que ça va bien trop vite. On n'en a pas l'habitude, nous. Bon, on ne peut pas en vouloir à Jean Castex, il n'a pas fait exprès d'arranger les choses, hein, c'est pas de sa faute. C'est la fin du port du masque et c'est donc la fin de l'état de grâce pour les physiques compliquées, les physiques moins immédiates, comme Thomas et moi, par rapport à Matt Pokora, on a des physiques qui sont moins
on était bien avec le masque, nous.
Hein, avec le masque, nous, on avait 12-13 et là, on va retomber à 9. On va, à part s'ils nous prennent sur le contrôle continu. Là, on peut peut-être gratter 10.
On peut arracher un 10, mais ça ira pas plus loin. Non. L'autre gros sujet politique, ce sont évidemment les régionales.
Sujet qui passionne tout le monde.
Hey, trois dodos.
Trois dodos, et c'est les régionales. Alors, vous ne le savez sûrement pas, mais Matt Pokora est revenu spécialement de Los Angeles pour voter pour le premier tour des régionales. Matt a dit à son épouse Christina Milan, cri-cri, moi sur les listes alsaciennes, je regarde, mais j'hésite entre Jacqueline Malmanche et Nathalie Mulot, c'est les vrais noms. Je préfère me rendre sur place pour accomplir mon devoir citoyen. Il n'est pas du tout là pour l'émission. Il est là pour les régionales. Voilà. En tout cas, c'est super la venue de Matt Pokora à RTL. Il y avait des fans devant la station.
C'était pas pour vous les fans.
Non, alors ils ont vu un blond tatoué de loin. Et ils ont sorti leur appareil photo là. Après, ils ont vu un blond tatoué de près. Ils ont dit ah merde, c'est l'autre con de chronique. Bref, je vais vous parler des élections régionales et départementales. Attention, si vous nous écoutez en voiture, garez-vous sur le côté car il y a des risques de somnolence. Pourtant, passionnant, hein, les élections départementales. Les conseillers départementaux, anciens conseillers régionaux, sont renouvelés tous les 6 ans selon un mode de scrutin binominal à 2 tours. Et on se fait déjà chier, vous avez vu ? Ça va très vite. Alors bon, je vous le fais court. En résumé, en fait, ça va être En Marche contre le RN. Tous les autres partis, c'est comme les tennisman français à Roland-Garros. Ils vont y aller, mais ils vont prendre une branlée. Et c'est con, parce que Julien Bayou, il a acheté une belle veste. Et s'il a le ticket, il faut qu'il la ramène, parce qu'elle va servir à rien.
On prend un peu de hauteur, si vous voulez bien. Je sais que vous êtes très intéressé par les choses de l'espace. Thomas Pesquet est sorti pour installer des panneaux solaires là-haut.
Bah, il était temps. Il se met enfin à bosser au bout de 2 mois. Il a arrêté de nous faire des selfies. Il fait que ça, en fait, le gars. Il prend des photos. C'est le Nikos de l'espace. C'est Nikos en apesanteur. Ouais, salut les loups. Oh, Uranus. Oh, salut, c'est Saturne. Bon, hier, il a posé des panneaux solaires. Et les balais d'essuie-glace, Thomas Pesquet, ils sont offerts. En fait, c'est Olivier de Carglass, quoi, Thomas Pesquet. Demain, il va changer le carrelage de la salle de bain. En fait, Thomas Pesquet, c'est le chaouche de la station internationale.
Vous n'êtes pas très mignon. Hein. Bon, j'espère qu'il ne nous écoute pas. Un mot, parce que je sais que vous êtes très au fait de l'actualité judiciaire, ce rebondissement dans l'affaire Delphine Jubilard. Le mari et la belle-mère sont donc en garde à vue.
Ah bon ? Ce serait l'ex-mari cocu et jaloux, sous le double motif qu'il est cocu et jaloux. Alors perso, je me doutais que ce n'était pas le colonel Moutarde avec le chandelier. 6 mois d'investigation pour arriver à cette conclusion. Et filez-moi l'enquête, hein, je vous l'aurais dit en 9 secondes qui c'était le coupable. Moi j'ai eu des doutes, vous avez vu la photo du gars avec son costume beige là ? Il a un bouquet Interflora, il a la barbiche, juste le trait. Tête de coupable, d'entrée. C'est un Jonathan Daval saison 2, le même salopard qui se balade avec une rose à la marche blanche pour sa femme, et aussi mauvais menteur. Il a quand même essayé de dire bah, j'étais au lit à 22h. Oui, parce que le salopard se couche tôt. Delphine est sortie faire son jogging à 23h48, et quand à 4h37 elle n'était pas rentrée, je me suis inquiété. Voilà. Qui peut croire une connerie pareille? Cédric Jubilard donc, a été placé en garde à vue avec sa mère, la Chouma. Ils ont bien dû se foutre de sa gueule au commissariat. Bref. Maman, je suis avec maman. Bref, Jonathan Daval va bientôt se faire un nouveau copain en prison. Il faut les mettre les deux ensemble, les deux salauds, là, comme deux perruches, comme un couple de perruches.
Il y en a un qui est un petit peu présumé innocent, quand même. Oui. L'autre affaire judiciaire qui passionne la France, Philippe, c'est... Ah ben, ça, c'est... Ah oui,
affaire.
C'est votre cambriolage de vendredi dernier. Et je crois que la police a déjà retrouvé le coupable.
La maréchaussée française a arrêté un suspect. Je vous jure, tout est vrai. Les flics ont retrouvé mon Arsène Lupin low cost. Alors, grâce à la caméra du bureau d'avocat qui est en bas de chez moi, parce que le coquinou n'a pas remis son masque en sortant de chez moi. Alors, il pouvait pas parce qu'il avait les bras chargés comme un touriste chinois sortant des galeries Lafayette un jour de
somme. Il y avait une caméra en bas de chez
moi. Oui, il y a une caméra en bas de chez moi. Et alors, j'ai eu le commandant. Tout est vrai. Il est chargé de l'affaire authentique. Il m'a dit vendredi 11 juin au matin, jour du cambriolage. Il était chez nous pour une convocation pour un autre cambriolage. Alors, il s'est fait gronder très fort, peut-être même houspiller, à tel point qu'à 14h, pris de remords, il était chez moi en train de cambrioler. Bon, du coup, le gars s'est fait tamponner sa carte au commissariat, au 10e cambriolage, c'est comme pour les pizzas, il aura sûrement un cambriolage gratuit. Mmh. Enfin, je pense, ça doit marcher comme ça.
Vous voulez nous parler à votre manière du problème de la récidive, hein, comment on fait pour l'éviter selon vous. C'est quoi la bonne peine pour un cambriolage?
Alors, à chaud, j'avais pensé à la peine de mort. Mais... celle-ci. Alors, parce qu'en fait, je trouvais la charia et l'amputation des mains un peu molles. Et avec le recul, je me rends bien compte que c'est un peu exagéré pour un cambriolage. Alors, pourquoi je voulais la peine de mort? J'explique quand même. Parce que c'est mon cerveau reptilien, le cerveau archaïque, c'est mon cerveau Rassemblement National qui avait pris les commandes.
Ouais.
J'avais un petit Eric Zemmour sur ma tête, comme dans Ratatouille. Vous savez, Ratatouille, quand il prend les commandes dans le Pixar. Et moi, il y avait Eric Zemmour qui me disait, là-haut, il disait, il y a des travaux dans l'immeuble, à coup sûr, c'est les Pakistanais qui ont fait le coup. Bon, finalement, mon cambrioleur, il est français. Bah, dommage, mais pakistanais, il bosse honnêtement pour 1 200 € par mois pour un taf où je tiendrai pas une demi-heure. Moralité à l'approche des régionales, votez pour qui vous voulez, mais essayez de pas voter avec votre cerveau reptilien. Votez avec vos ménages, par exemple. Voilà. Alors, je finis avec un mot de foot parce que Matt Pokora n'est pas passionné par les régionales, il aime le foot. Alors, très belle victoire de la France contre l'Allemagne grâce à un très beau but de notre attaquant allemand, Mats Hummels. Encore un Matt, hein, décidément, ils ont du talent. Alors, faut absolument que Didier Deschamps pense à sélectionner Mats Hummels contre la Hongrie parce qu'il marque plus que Benzema et Kylian Mbappé. Et le foot, c'est une des rares disciplines où on peut marquer contre son camp. Vous voyez, en radio, par exemple, on ne peut pas marquer contre son camp. Enfin, c'est compliqué. Seuls les plus grands savent le faire.
Merci Arnaud Touche du service économie d'Europe 1.
Voilà. Alors, but contre son camp, il sait tout faire.
Bon, bah, c'était ma dernière, hein, je crois.
Bah, je pense, avec la direction qui écoute.
La direction qui est en régie là-bas, ouais, c'est que c'était passé un peu inaperçu. Mais
bah, ouais, j'ai tenu à mettre un coup de projecteur.
C'est à ça qu'on reconnaît les amis.
Ah,
merci beaucoup, Philippe. On se retrouve mardi prochain, mais moi je serai peut-être plus là. Vous dansiez, vous chantiez, bien joué maintenant alors qu'il se lance dans le théâtre pour la première fois. Matt Pokora est donc l'invité d'RTL Soir tout de suite. Et c'est comme pour Philippe Cabrivière, hein, c'est en direct, même si Matt Pokora chante beaucoup mieux que Philippe quand même.
RTL Soir, Thomas Soto.
RTL Soir, avec Thomas Soto.
Matt Pokora, c'est un showman, dit ses fans, chanteur, danseur, performeur. Mais à la rentrée, il va changer de scène, délaissant provisoirement les grands shows à l'américaine pour s'installer sur une scène de théâtre. Bonsoir et bienvenue à vous, Matt Pokora.
Bonsoir.
Il y a beaucoup de monde devant RTL pour vous accueillir. À partir de la mi-septembre, vous serez donc à l'affiche des grandes ambitions au Théâtre de la Madeleine à Paris, aux côtés de Philippe Lelouch et d'Estelle Lefébure. Instinctivement, c'est pas sur ces planches-là qu'on vous attend forcément. Alors pourquoi ce choix ?
Parce que déjà, j'ai, comme je le dis depuis quelques années, jouer la comédie, ça me plaît de plus en plus. J'ai eu une expérience avec Muriel Robin, notamment sur TF1, qui s'est très bien passé. Donc ça m'a encouragé à continuer. Et puis, je connais très bien Philippe Lelouch. Et on s'est vu l'été dernier dans le sud de la France.
C'est lui qui est venu vous chercher, qui vous a dit viens.
Ouais. On était dans le même restaurant. Il est venu, il m'a dit, tu sais, je pensais à un truc. J'ai une pièce qu'on est en train d'écrire et j'aimerais te la faire lire. Et j'ai lu, j'ai beaucoup ri. Je lui ai envoyé même une photo à la lecture où j'avais les larmes aux yeux pendant ma lecture. Et je lui ai dit, allez, faisons-le dès que c'est possible, dès qu'il y a une fenêtre de tir.
Donc c'est le genre de promesse auquel on ne croit pas forcément quand c'est un truc d'été. Et finalement, un an après, vous y êtes.
Oui, si, et le challenge me plaît. J'ai toujours aimé relever des défis dans ma carrière, que ce soit faire une comédie musicale ou cet album de reprise de Claude François, etc. J'aime bien me balader sur des registres différents. Et le théâtre, c'est en même temps, je pense, la meilleure école pour un comédien, pour un acteur. Et il n'y a pas de filet, faut être dans le rythme tout de suite. Et voilà, on a la réponse de suite si on est bon ou pas en fonction de la réponse du public.
Vous avez l'habitude de la réponse du public, mais dans un registre différent.
C'est
avec
plutôt
beaucoup
moi
de bruit,
qui les sollicite.
Ça change un peu. Vous êtes plus tracker ou pas avant de monter sur scène comme ça?
Je le ressens pas encore là. Honnêtement, la scène moi ne m'impressionne pas. C'est mon élément. C'est là où je me sens le plus à l'aise. J'ai envie de dire.
Ouais.
Mais je pense que je le ressentirai un peu plus 2-3 jours avant. Si. Mais après, comme j'ai l'habitude de beaucoup travailler et d'être prêt en général quand on fait appel à moi. Si je suis bien préparé, en général, ça enlève une grosse part de stress quand même.
C'est une parenthèse ou c'est le début d'une nouvelle vie? C'est en plus d'eux ou peut-être ça sera un jour à la place d'eux?
Non, c'est une parenthèse. Je sais pas, mais aujourd'hui, non. La musique fera toujours partie de ma vie. Est-ce que je le ferai de la même manière? Est-ce que je continuerai à danser, à performer comme ça à 50, 60 ans? Non, j'en doute. Je me réinventerai, mais en tout cas, c'est la comédie, que ce soit sur les planches ou derrière une caméra, c'est quelque chose qui sera de plus en plus présent.
Il y a un chemin qui vous intéresse là, quand même, complètement. Hein, par là. Mais vous travaillez quand même un nouvel album ou quelque chose là? Parce que pour tous vos fans qui vous attendent devant tel, là, je suis un peu inquiet.
Non, je me concentre à fond sur le théâtre. Comme je dis, j'aime pas faire 50 choses en même temps. Je me concentre à fond sur le théâtre. Quand le théâtre sera lancé, quand le spectacle sera prêt et qu'on sera bien rodé, là je pourrai avoir l'esprit libre et me pencher sur un nouvel album, mais il n'y aura rien de toute façon avant l'année prochaine.
Avoir l'esprit libre, vous l'avez l'esprit libre, vous avez la parole libre, vous dites ce que vous pensez, Matt Pokora. Vous avez mal vécu et vous l'avez fait savoir, le confinement, l'année sans concert, sans spectacle, ça avait fait naître une mini polémique comme notre époque s'est en fait éclore toutes les 15 minutes. Avec le recul, vous vous dites, j'aurais mieux fait de me taire ou au contraire que vous avez bien fait, qu'il faut dire les choses aujourd'hui, qu'il faut nommer les choses?
En fait, des fois je me dis, j'aurais mieux fait d'attendre un peu.
Ouais.
Puisqu'en fait, visiblement, quand je le fais toujours à chaud et je suis toujours un des premiers à me mettre dans le bourbier. Et au final, 3 semaines après, 1 mois après, tout le monde dit la même chose, mais ça passe. Ouais. Donc en fait, c'est juste parce que j'ai l'habitude de réagir à chaud et très vite et de suite quand les gens ne sont pas encore prêts à entendre ce genre de choses.
Ouais. Mais vous regrettez après coup?
Non.
Non, je suis comme ça.
Et non, je suis comme ça. Et puis je pense que je sais que quand je vais retourner sur les spectacles, soit les miens ou ceux des autres, je pourrais regarder toutes les équipes dans les yeux. Ils savent que je me suis battu, que avant de penser à moi, je pensais avant tout à mes équipes parce que évidemment, c'était pas pour moi que je me battais le plus, c'est pour tous ces gens, pour mon frère est technicien. Mon frère travaille sur les tournées et je sais ce que c'est que des gens qui ont des statuts qui sont pas forcément des statuts d'intermittents, qui ont des statuts d'indépendants et pour eux c'est plus dur que les intermittents et donc voilà, faut dissocier un peu tous ces gens et puis
Quand un artiste ou une star se plaint, c'est pas forcément pour elle.
Non, et puis au moment où je me suis plaint, c'est qu'on voyait encore des 40 000 personnes dans les stades et que nous, on disait ouais, mais c'est en extérieur, mais le voisin, il est de la même manière à côté de l'autre. Enfin, c'était toujours un peu délicat au début de s'exprimer là-dessus.
On peut encore être un chanteur engagé à l'heure où les réseaux sociaux vous découpent avant même que vous ayez terminé votre phrase?
Oui, alors après...
Ça rentre dans votre réflexion, ça, ou pas?
Oui, après, le problème, c'est qu'après, quand tu l'ouvres sur un ou deux sujets, on attend à ce que tu l'ouvres sur tous les sujets.
Ouais.
Donc, on va te reprocher après de choisir tes combats ou les choses qui te touchent.
Ouais.
Donc oui, c'est un peu... Mais bon, les réseaux sociaux, honnêtement, c'est pas là où je me fais un avis de ce qui est bien ou pas bien, ou de ce qui plaît ou ne plaît pas. Franchement, ouais. C'est pas... On sait très bien que c'est quand même un endroit où on déverse beaucoup de choses négatives. Et c'est pas là-dessus que je... C'est pas sur les réseaux sociaux que je base mes choix ou les combats que je veux mener. En tout
Vous êtes toujours aussi fan de foot ?
Toujours,
je vous ai vu en rentrant, vous jetiez un œil sur le match entre Danemark et la Belgique. Danemark qui mène 1-0,
surprise.
On va le gagner cet Euro ou pas?
Bah, en tout cas, on a fait un match de champion. Ça, ouais. C'est sûr que contre l'Allemagne, on a fait un match de patron. On a vu que notre colonne vertébrale est toujours là. Loris, Varane, Kanté, Pogba, Mbappé. Donc voilà, ça c'est rassurant. Et puis voilà, c'est une équipe très solide, très bien équilibrée. Il y a l'expérience, il y a de la maturité. J'ai l'impression qu'il y a des bonnes ondes autour de cette équipe et ça fait du bien.
Vous irez voir des matchs éventuellement ou...
Ouais, là je vais essayer. Ouais. S'il passe, je pense après les poules. Ouais. Dès que ça devient un peu croustillant, là, je pense que je sauterai dans un avion pour aller voir mes amis. Ouais.
Merci beaucoup. C'est lesquels vos amis dans l'équipe, il y en a ?
Bon, j'en ai plusieurs. J'ai Olivier, Giroud. Ben Kylian.
C'est un peu dur pour Giroud là, non, en ce moment. C'est un peu injuste ou pas ce qui se passe autour de Giroud ?
Alors, ce qui est injuste, c'est de penser que de prendre parti Benzema, Giroud, alors que Benzema a été sélectionnable depuis 5 ans, Giroud serait quand même en équipe de France. Ouais. C'est deux profils différents, c'est deux systèmes de jeu différents. Donc, quand les gens qui connaissent le foot savent que l'un n'empêchait pas l'autre d'être en équipe de France. Mais après, ce qui est dur pour lui, c'est la saison qu'il a vécue. C'est que dès qu'il rentre en jeu, il marque à Chelsea, il fait des choses très bien et qu'on ne comprend pas pourquoi le match d'après, il est ignoré. Alors que l'attaquant titulaire, lui, ne marque pas un but. Ouais. Donc c'est toujours un peu délicat, mais je pense que voilà, il a 35 ans, il a une carrière plus que magnifique. Il a gagné quasiment tous les trophées possibles, si ce n'est l'Euro. Pas encore.
Pas encore, c'est une question
donc,
de semaine.
Donc voilà, il vient de remporter la Ligue des Champions, il n'a plus rien à prouver. Voilà, qui profite peut-être de ses derniers moments en équipe de France et voilà, et ce sera bien mérité.
Mais j'ai l'impression que il était ici il y a quelques semaines, Olivier Giroud, à votre place. J'ai l'impression que vous avez une sincérité commune tous les deux. Vous ressemblez un peu dans cette façon.
Ouais, je sais pas, mais en tout cas, on est très proches et je pense que ça fait partie de voilà, on aime les gens honnêtes qui bossent et qui font pas trop de vagues et qui respectent les autres.
Et on aime bien les gens qui font du théâtre. La pièce dans laquelle vous jouerez à partir du 17 septembre s'appelle donc La Grande Ambition avec Philippe Lelouch et Estelle Lefébure. Ce sera au Théâtre de la Madeleine à Paris. Les réservations sont ouvertes et traînez pas parce que ça part assez vite. Il y aura une tournée en région après ça...
Pour l'instant, on n'est que sur Paris. Ouais.
D'accord.
Pour l'instant, on est que au
ça va marcher à Paris et ensuite il y aura une tournée en région. Ouais. Voilà. Merci Matt Pokora d'être venu dans RTL Soir. On va se quitter avec quelques notes des planètes. Vous savez pourquoi ?
Yes.
Parce que je l'aime bien.
Merci voilà. Beaucoup.
Merci à vous. Contre ma peau, ta peau contre ma peau, laisse ta peau contre ma peau, laisse-moi donner le Matt tempo. Pokora qu'on écoute et qu'on ira voir jouer au théâtre en septembre et qui ira voir jouer les Bleus au foot bientôt. Les matchs Hongrie-France demain. Merci beaucoup, dans un instant, la culture de l'actu.
RTL Soir, Thomas Soto. Thomas Soto,
RTL Soir.
La culture de l'actu après le bac vient l'été. Lundi, nous serons le 21 juin, le début officiel de l'été. Mais comme vous considérez, Julien Moulcou, qu'il a déjà commencé, vu les chaleurs de ces derniers jours, eh bien, vous avez invité l'été dans la culture de l'actu.
Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers. Picoté par les blés, foulé l'herbe menue, rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds, je laisserai le vent baigner ma tête nue. Arthur Rimbaud, 1854-1891. Après Ella Fitzgerald et Louis Armstrong, place à Janis Joplin. Et si l'été est un voyage en Méditerranée pour Albert Camus, eh bien ce sont deux histoires d'amour qui s'entremêlent, croisant le chemin du roi de la forêt et de la reine des fées dans Le songe d'une nuit d'été que fait William Shakespeare et Camille en musique Félix Mendelssohn, alors âgé de seulement 17 ans. Ah oui, parce qu'il n'y a pas que Vivaldi que l'été a inspiré, évidemment. On peut aussi citer Berlioz, Schubert ou encore donc Mendelssohn. Et puis l'été, c'est aussi une saison très inspirante pour le cinéma cette fois.
Olivier Newton-John.
J'étais un petit peu amoureux d'elle.
Vous n'étiez pas le seul.
Il m'a jamais répondu.
Alors, il y a les nuits d'été de John Travolta et d'Olivia Newton-John dans Grease. Mais l'été, c'est aussi le terrain de jeu des filles faciles chez Rebecca Zlotowski. Plaire, aimer et courir vite, bah c'est ça l'été pour Christophe Honoré. C'est Rome, son oisiveté et sa Dolce Vita pour Fellini. Il est au contraire meurtrier en Provence chez Jean Becker. Enfin, il est le temps de l'amour, adolescent et aventurier chez Wes Anderson dans son merveilleux Moonrise Kingdom.
Où es-tu, nom de Dieu ? Ça t'intéresse de savoir que ta fille s'est enfuie de la maison ?
Question tendancieuse. Le temps que les renforts arrivent, je mandate ce garçon maigre, ce garçon petit et ce garçon avec le pansement sur l'œil qui m'accompagneront dans le break. C'est le temps
de l'amour, le temps. Et alors justement, tiens, l'été en chanson.
C'est un sujet inépuisable, mais alors je vous préviens tout de suite, pas la peine d'écrire des mails, j'ai fait des choix. Alors parmi mes choix, il y a évidemment un classique.
Allongé sur la plage.
Ah oui. Les cheveux. Alors, je ne saurais pas vous dire qui chante ça. Les yeux, le ciel, le soleil et la mer.
Dans le sable,
François Bégalt.
On est bien tous les deux. C'est l'été, les vacances. Oh mon Dieu.
Bon, et puis il y a les chansons plus contemporaines, où par exemple Le sable est givré chez Étienne Dao.
Tout est blanc, tout givré. Innocent, tout figé, c'est l'hiver, en été.
Qu'est-ce que j'aime, Kinder.
Moi aussi. Mais enfin, il y a aussi Isabelle Pierre et Bon Entendeur pour qui le temps est bon, surtout en été. C'était le but.
Quant à savoir si le ciel est bleu, on verra ça tout à l'heure avec Peggy.
Voilà, mais c'était une façon de lancer Peggy quand même.
Mais quand même, attendez, remettez quand même Olivia Newton-John là, parce que c'est jamais trop tard pour dire les choses. Olivia Newton-John, je suis un tout petit peu amoureux de toi. Olivia Newton-John, I'm a little bit in love with you. Call me back. Thank you.
Si le sosie d'Olivia Newton-John a entendu ce message, qu'elle appelle vite. Merci.
Et si Olivia Newton-John l'a entendu, qu'elle appelle pas. Merci. Dans un instant, ce sera le journal de 19h.